Raphaël, un nouveau livre sur le président des États-Unis, et cette fois-ci, ce n'est pas un politicien qui l'écrit, mais bien une psychologue.
Et pas n'importe laquelle! Une psychologue avec un nom de famille assez remarquable. Pourquoi? Parce que ce nom de famille-là, c'est nul autre que Trump. Mary, de son petit prénom. Le livre, t'as sûrement entendu ça, Marie-Claude, était censé à la base paraître en fait à la mi-août. Il y a eu beaucoup d'engouement qu'on a commencé à avoir. D'un, c'était qui l'auteur? De deux, qu'est-ce qu'elle avait à dire sur le président des États-Unis? Donc, on a devancé au 28 juillet. Il y a eu encore plus d'engouement, donc on a devancé au 14 juillet. Et là, la Maison-Blanche, je t'en parlais là, dans le dernier segment, à la toute fin, a essayé de bloquer la publication. Ça a avorté. Fait que là, on commence à faire vraiment publiquement le tour des extraits et il y en a qui sont assez croustillant. Je ne sais pas si tu en as vu. Là.
Non, moi, j'en ai pas vu, justement. J'espérais que toi, tu en aurais vu.
Ben, c'est ma job, Claude. Donc, je vais t'en... ça aurait été un peu plate que je te dise non. Hein. Donc, je te donne un exemple. Elle le traite, donc, Mary Trump, qui est sa nièce, qui est la nièce de Donald Trump.
La fille de son frère, M. Trump, ou quoi?
De Fred Trump, exact.
D'accord.
Et donc, elle le traite de tricheur, donne comme exemple qu'il aurait payé quelqu'un pour passer les examens d'admission à l'Université de la Pennsylvanie, à sa place. Ça, c'est un exemple de sa jeunesse. Okay, mais le livre serait truffé, le jeu de mots conditionnel, parce que oui, j'ai vu les extraits, mais évidemment, je n'ai pas lu le livre parce qu'il n'est pas encore public, dans son entièreté tout au moins. Elle va aussi plus loin dans l'arène politique. Elle dépasse là, le strictement personnel et elle dit carrément, là je la cite, là, que si on accorde à Trump un deuxième mandat, ce sera la fin de la démocratie américaine. Tu sais, ah, il va fort, là, c'est sa nièce, c'est une membre de sa famille. Fait que, tu le disais toi-même, Donald Trump s'est fait tirer dessus à boulet rouge par bien du monde, incluant d'anciens conseillers. Toi et moi, on s'est parlé du livre de John Bolton il y a quoi, à peine quelques jours.
Oui.
Mais c'est différent quand ça vient de la famille, ça vient de l'intérieur de la famille.
Ben justement, c'est peut-être elle qui est la mieux placée pour le dire.
Ben c'est ce qu'elle dit très certainement. Et en fait, elle, ce qu'elle mentionne, c'est que non seulement elle est quelqu'un de sa famille, mais c'est une psychologue de formation, elle a un doctorat en psychologie. Donc, elle l'aborde de cet angle-là. Et très clairement, elle semble croire que son oncle a d'assez graves problèmes au niveau personnel.
Oui, et quand elle parle du deuxième mandat qui serait la fin de la démocratie, je veux dire, quelque part, elle n'est pas la seule à s'inquiéter de cette possibilité, puisque M. Trump a ses règles à lui, hein, dans le sens qu'il fait comme il veut.
En fait, c'est-tu quoi? J'irais même plus loin que ça. Le livre en soi, honnêtement, je suis pas sûr de l'impact qu'il va avoir parce que même si c'est sa nièce, la réalité, c'est qu'on a tellement entendu de choses sur Donald Trump négatives depuis les 4 dernières années que l'opinion publique est assez cristallisée.
C'est vrai.
Alors que, une fois que tout ça s'est dit, il y a quand même une nuance à apporter. C'est-à-dire que c'est une brique de plus qui est lancée contre Trump au niveau de sa personnalité. Mm-hmm. Et les électeurs aux États-Unis qui ont donné une chance à Trump, qui n'étaient pas nécessairement là, partie intégrale de sa base, mais que, écoute, de façon récalcitrante, se sont dit on va laisser une chance aux coureurs en 2016 et qui auraient pu être tentés de l'appuyer encore en 2020 pour eux présentement. Là. Ceux que Donald Trump est en train de perdre depuis les dernières semaines, les derniers mois, dans certains cas, les dernières années. Pour eux, ce qui pose problème d'abord et avant tout, c'est ça. Personne. C'est pas tant idéologique, c'est pas tant partisan, en fait, c'est humain. Et écoute, Marc-Claude, j'ai le goût de te citer rapidement un échange que j'ai eu il y a quoi, quelques semaines, peut-être 2-3 semaines avec un journaliste canadien, Alex Panetta, qui était de la presse canadienne, maintenant, je pense qu'il est à CBC. Il est correspondant aux États-Unis. Extraordinaire comme journaliste. Et il parlait des électeurs, justement, qui risquaient de faire la différence en novembre prochain. Des électeurs que lui avait rencontrés personnellement depuis les dernières semaines. Et il en citait un type de 46 ans, un vétéran qui a voté républicain toute sa vie, qui a voté de façon récalcitrante justement pour Trump il y a 4 ans et qui là disait qu'il en avait tout simplement assez. Et je te cite l'électeur en question. À ce stade-ci, je suis juste dégoûté par lui comme être humain. Donc ce livre-là, pour moi, où il peut faire mal potentiellement, c'est en tapant sur ce clou-là.
Oui, et puis aussi où ça peut faire mal, c'est plus ils vont se battre pour en interdire la publication, ben plus ça va attirer l'attention aussi.
Absolument, c'est
alors,
ça qu'on voit depuis les dernières semaines.
C'est une arme à double tranchant.
Absolument.
Écoute, Raphaël, il nous reste à peu près 4 minutes pour faire un sujet, moi, qui m'intéresse énormément. Je ne savais pas que les grands électeurs pouvaient voter contre le choix des électeurs.
OK.
Et là, la Cour suprême a dit, hey, justement, vous n'avez pas le droit de faire ça.
Là, tu vas me permettre de mettre mon petit chapeau de politologue et instructeur. J'aurais pas le choix.
Parce
que s'il y a des choses que je me fais demander souvent, c'est bien casser, c'est ça, des grands électeurs, puis casser, ça mange en hiver des grands électeurs.
Oui, puis là, on est l'été, fait que vas-y.
Ouais. C'est assez simple, en fait. Il y a une espèce de mythe autour de la complexité des élections présidentielles américaines, mais c'est assez simple. Chaque État se voit conférer un certain nombre de grands électeurs en fonction de sa population. Donc, plus un État est peuplé, plus il va avoir de grands électeurs. Donc, par exemple, le Vermont, très peu peuplé, en a 3. La Californie, très peuplée, en a 55, ainsi de suite. Vous êtes un candidat présidentiel et vous gagnez le plus de votes au suffrage populaire dans un État, mais vous gagnez la totalité des grands électeurs de cet État-là. Donc, c'est un petit peu un système de points. C'est un système qu'on appelle « winner takes all », parce que vous gagnez par un vote, que vous gagnez par 3 millions de votes dans un État, en principe, vous raflez la totalité des grands électeurs de cet État-là. C'est automatique, en principe. Sauf que, formellement, les grands électeurs, bien, c'est aussi des êtres humains. Et leur travail, bien, c'est de formaliser le résultat de l'élection de novembre en se rencontrant en personne en décembre, un mois plus tard, à tous les 4 ans, et en votant donc pour concrétiser le choix des électeurs, des voteurs de leur État. Donc, par exemple, si la capitale du Colorado, c'est Denver, que le Colorado a 9 grands électeurs, bien, tu as 9 grands électeurs qui se réunissent en décembre à Denver, dans la capitale, pour faire formellement voter pour le candidat qui va avoir gagné le vote populaire de l'État. À date, c'est clair. Donc, si Hillary Clinton gagne le Colorado par, disons, 5 points, comme elle l'a fait en 2016, bien, ces 9 personnes-là concrétisent ce résultat-là un mois plus tard, et ça donne 9 grands électeurs au collège électoral pour Hillary Clinton.
Ah! Voilà.
Voici le hic. Des fois, tu peux te retrouver avec des grands électeurs à l'âme rebelle qui, au lendemain de l'élection présidentielle en novembre, se disent « Ah, sais-tu quoi? C'est un tel ou une telle qui a gagné mon État. Ben moi, je ne l'aime pas, ce candidat-là. Je ne l'aime pas, cette candidate-là. Donc, je vais refuser de l'appuyer en décembre comme grand électeur. » Et en fait, on a eu ça en 2016. Entre le moment, et je ne sais pas si tu te rappelles de ça, entre le moment de l'élection présidentielle où on savait que Trump avait gagné, et la réunion du collège électoral en décembre, où le résultat allait être formalisé, parce que tu as eu des militants anti-Trump qui ont essayé en fait de mettre de la pression sur certains grands électeurs dans différents États pour qu'ils votent pour quelqu'un d'autre que Trump, et donc pour que Trump ne devienne pas président. Et ça avait eu un contre-effet, parce que tu as eu des partisans de Trump qui avaient réagi en mettant de la pression en sens inverse contre Hillary Clinton, et donc au final, alors que le résultat de l'élection aurait dû en principe donner un résultat collège électoral de 306 à 232 pour Trump, bien, ça s'est officiellement terminé à 304 à 227. Pourquoi? Bien, parce que tu as certains grands électeurs, notamment dans l'État de Washington, qui ont voté pour Colin Powell ou pour un militant amérindien, ça, c'est pas une farce, là, qui s'appelle Faith Spotted Eagle, plutôt que voter pour Hillary Clinton.
OK. Et là, il nous reste 40 secondes à peu près pour dire que la Cour suprême vient de dire vous n'avez pas le droit de faire ça.
En fait, ce que la Cour suprême vient de dire, c'est si vous êtes un État, vous avez le droit d'interdire cette pratique-là. Vous pouvez punir les grands électeurs, justement, à l'âme rebelle, potentiellement, justement, en leur imposant des amendes assez salées. Et écoute, c'est parce qu'il faut réaliser les implications potentielles. Si on laisse ça aller comme ça, sans punition, tu as un résultat serré, ça se finit par quelques voix au collège électoral, et tu as 2, 3, 4 grands électeurs qui refusent d'aller avec la volonté populaire. Imagines-tu le chaos démocratique que ça pourrait causer? C'est pour ça que la décision de la Cour, elle est très importante.
Très, très importante, en effet. Puis tu nous expliquais ça de façon absolument claire et brillante. Merci beaucoup, Raphaël Jacob.
C'est ça aussi ma job, Marie-Claude.
Oui, merci beaucoup. On s'arrête pour les nouvelles de retour après avec nos chroniqueurs.